Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Plus de 40 000 mariages catholiques par an ont été célébrés ces deux dernières années. De plus, l'âge des fiancés au jour de leur mariage est en constante évolution. Il est aujourd'hui de 37,3 ans pour les femmes et de 39,8 ans pour les hommes. Une tendance qui se confirme année après année. Est-ce que cette évolution serait à mettre sur le compte du discernement? Est-ce qu'il est inexistant? Est-ce qu'il est mal ajusté? Et dans ces cas, quelle clé apporter aux amoureux pour qu'ils s'engagent librement? Discerner pour se marier, c'est l'étape indispensable avant l'engagement d'une vie. Un engagement qui fait peur, mais dont le pas peut être fait si les amoureux sont en vérité et s'ils acceptent d'être accompagnés. Et pour nous éclairer sur ce discernement, notre invité est le père Pierre-Marie Castaignos de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Bonjour père.
Bonjour Isabelle, bonjour aux auditeurs, auditrices.
Vous êtes de passage dans notre région puisque vous séjournez quelques jours à l'abbaye de Boulogne. Merci d'avoir accepté notre invitation et ce détour par les studios de Radio Présence. À l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise, vous animez régulièrement des conférences et des retraites de préparation au mariage. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur cette thématique, dont Est-ce lui, est-ce elle, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quel constat faites-vous à propos des couples que vous recevez?
La difficulté à s'engager, c'est vrai, fait partie, j'allais dire, dans notre société, en tout cas s'engager dans un... Parce que je me situe dans le cadre du mariage à l'église, évidemment. Donc, il y a un effet, si vous voulez, il y a un côté anxiogène dans le mariage à l'église, dans le sens où il y a un effet cliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière.
Eh oui. C'est pour toute la vie.
Et c'est pour toute la vie. Or, des engagements pour toute la vie, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas tant que ça. Je veux dire, bon, il n'y a que l'Église qui... c'est beaucoup en mode CDD, entre guillemets, où je démissionne, etc. La vie professionnelle, évidemment, on peut rompre un contrat, etc. Donc, on voit que ce côté, toute la vie, d'embarquer toute la vie, il y a des vies qui basculent. Et en même temps, c'est la grande beauté du mariage à l'Église. C'est des vies basculent pour tout le temps. Il y aura un jamais plus pour un toujours, d'une certaine manière. Il y aura jamais plus. Je serai dans le couple avec une autre personne, mais toujours avec toi. Et ce toujours-là, je pense que c'est quelque chose qui fait peur et qui fait, vous évoquez les statistiques du mariage civil, ou de plus en plus tardif, voire beaucoup ne se marient pas. 66% des enfants naissent hors mariage civil. Donc c'est en dehors d'une parole. Et qui, pour moi, me pose question. Je me dis, mais en fait, est-ce que la parole, ça va être l'enfant? Est-ce que c'est l'enfant, on est ensemble parce que...
Est-ce que c'est le couple?
Et où est-ce que c'est le couple? Du couple naît une parole qu'est l'enfant, mais de cette... Vous voyez, un peu une question d'ordre dans l'amour, que je trouve intéressant. Mais c'est intéressant d'interroger les pratiques de nos concitoyens et de voir, au fond, comment ce que propose l'Église est vraiment de plus en plus différent de ce qui se vit en société.
Et oui, c'est ça. Et c'est aussi ça ce qui peut faire peur, mais aussi qui peut attirer, parce que justement, il y a un autre message.
Surtout, il y a une transcendance. Le couple n'est pas le face-à-face de psychologie blessée. Il y a une espérance, il y a quelque chose qui va ailleurs, qui est plus loin. Je crois que cette question-là attire aussi. Beaucoup voudraient vivre, j'en suis persuadé, même qu'ils ne sont pas baptisés, voudraient vivre ce que propose l'Église. Vous vous rappelez les fondamentaux des piliers du mariage, la liberté, l'indissolubilité, c'est ça. C'est pour la vie, fidélité, fécondité. On vérifie ça. Je trouve qu'il y a ce que vivent les couples chrétiens, mine de rien, je crois beaucoup de couples voudraient le vivre, mais n'ont pas forcément les ressorts ni la formation.
Oui, d'où l'importance de se faire accompagner avant cet
engagement. Et d'où l'importance de savoir
et de mettre en place.
Ça existe. Ils n'ont pas forcément accès, ces couples-là, qui ne sont pas chrétiens. Ils ne savent pas quelle porte frapper, alors que ceux qui sont dans un régime de chrétiens habituels,
savent à quelle porte frapper.
Ils connaissent, exactement.
Oui, c'est ça. Parmi les couples qui se préparent au mariage, et on l'entend beaucoup, des personnes qui accompagnent dans cette préparation, nombreux sont ceux qui vivent déjà ensemble. Oui. En quoi cette cohabitation gêne-t-elle un juste discernement?
Alors, j'accompagne des couples, tout style de couples, etc., des couples qui sont en vie commune, des couples qui ne sont pas en vie commune, etc., voire qui sont à distance. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais le couple qui est en vie commune, moi, je lui pose plusieurs questions. Où a été votre temps de discernement? Où a été votre espace de liberté? Parce que vie commune veut dire... vie commune au niveau matériel, Qu'est-ce qui vous a poussé à la vie commune? Qu'est-ce qui a fait que vous savez, ça veut dire, on partage un loyer, donc mm-hmm. des aspects financiers, forcément au niveau des familles. On implique les familles. Au niveau des corps, évidemment, il y a une implication, etc. etc. Donc, je dis, où est-ce qu'était votre... Et autre question, est-ce que... en quoi le mariage va être un avant et un après?
Eh oui, c'est ça. Oui.
En quoi le mariage va être un avant et un après? Et en quoi vous avez aussi... Vous gardez votre liberté, je veux dire, jusqu'à... Il y a quand même, dans la vie commune, parfois, on n'ose pas dire... On se dit, ah, ça s'arrangera après. On voit le mariage comme magique.
Ah oui, ça salvateur.
Ira mieux.
Ouais.
C'est ça, salvateur, ça ira mieux après. Une sorte de pensée magique. Voilà, le sacrement va nous donner les grâces dont on a besoin, même si aujourd'hui... Non, c'est... Donc, j'invite à réfléchir là-dessus et de voir que c'est loin d'être anodin, quoi.
Mmh. Et vous parlez d'une rectitude d'intention.
Oui, la rectitude d'intention, c'est si je vois que l'autre, je ne suis pas capable de le rendre heureux, je sens que ce n'est pas la bonne personne, on ne reste pas avec quelqu'un uniquement pour se tenir chaud en hiver.
Parce qu'il y a la peur d'être seul
la
aussi.
La peur d'être seul. Mmh. Et j'ai eu un exemple dans une des retraites que j'ai accompagnée, etc. Un coup, j'ai accompagné, qui était très, très, très bel exemple. Elle, de tradition, une famille assez traditionnelle, aristocratique, etc. Lui, des quartiers nord de Marseille, et avec, il y avait des tas de choses à régler, il avait une fille qu'il ne connaissait pas. Bon, bref, toujours est-il que... Et lui, non baptisé ou catéchumène, voilà. Et lui, pendant notre rencontre, il dit, je crois qu'on n'est pas, je suis pas la bonne personne pour toi. Je suis pas la bonne personne.
Même
pour toi.
Même s'il y avait,
il y avait un amour, voilà, il y avait une affection. Il s'était rencontré via des sites internet, etc. Catholique. Mais je crois que je suis pas la bonne personne pour toi. Et il y a eu cette rectitude d'intention de reconnaître, non, on n'a rien à faire ensemble. En fait, on est des mondes tellement, tellement différents, parce qu'elle le reprenait tout le temps sur la manière de parler, sur la manière de s'habiller, voilà. C'est ce qu'elle avait appris dans sa famille peu traditionnelle. Voilà. Donc
elle voulait l'éduquer.
Et lui avait des choses à régler avec cette fille. Comment je vais réagir quand je vais découvrir ma fille, etc. Bref, c'était un cadre quand même très complexe. Ouais. Complexe. Et donc, du coup, je me dis, tiens, c'est intéressant de dire rectitude d'intention. À un moment donné, dès que le panneau end s'affiche,
il faut avoir le courage de le voir et de prendre.
Et je pense, c'est important, comment est-ce qu'on rompt? Moi, j'ai une phrase, un mot, c'est chirurgical. C'est-à-dire que on rompt face à face, pas par SMS ou par mail. Et puis, chirurgical, c'est on redonne à l'autre sa liberté, on remercie ce qu'on a vécu avec l'autre, pour ce qu'on a vécu avec l'autre.
Et on ne garde plus du tout de lien.
Pour moi, c'est brûler les ponts avec les ex. Pour moi, je suis assez un peu... Parce que forcément, il y a parfois eu des gestes très intimes qui ont été posés, parce qu'il y a des souvenirs, parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il y a des... etc. Il y a des lieux, il y a des images, etc. Du coup, d'être très clair soi-même, on redonne à l'autre sa liberté et on perd un ami. On dit on restera ami. Non, on ne restera pas ami. Hein.
Supprimer les photos, supprimer les messages.
Ouais, messages,
voilà,
c'est radical. Voire assez radical, de façon à ne pas garder des liens qui pourraient être... On voit bien souvent des questions d'infidélité. Ça vient avec des personnes... C'est toujours des personnes connues.
Et oui, c'est des
personnes que j'ai vues au lycée. Ouais. Tiens, est-ce que si on prenait un verre tous les deux, ou qui était un ex, ou qui était, etc. Donc,
ouais. Bon. Vous avez parlé des réseaux sociaux, des sites de rencontres, pardon, c'est une façon de faire connaissance. Ça peut être aussi un coup de foudre, ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour, ou bien un ami d'amis, etc. Est-ce qu'il y a des modes de rencontres qui sont plus propices à un discernement matrimonial?
Alors, il y a plusieurs modes de rencontres qui existent et qui ont toujours existé. C'est vrai que le cercle amical fait partie de ces modes de rencontres, parce qu'on a et c'est bien souvent de se rappeler que l'amour, c'est entre l'amour et l'amitié, une différence de degré, il n'y a pas une différence de nature. C'est-à-dire que l'amour, c'est une amitié qui va jusqu'au partage de toute la vie et au don de la vie à d'autres, etc. Donc, il y a une différence de degré, pas de nature. C'est ce que dit, par exemple, j'ai beaucoup informé avec Aristote et saint Thomas d'Aquin, ce que dit Aristote de l'amitié, on peut aussi l'appliquer à l'amour, avec sa spécificité. Ensuite, les questions... la question de se rencontrer à travers des réseaux sociaux ou des sites de rencontres.
Il y en a beaucoup, ou des
Il y en a beaucoup,
des
sites de rencontres. La difficulté, c'est qu'on rencontre, disons, Ça a toujours les carnets de balles, les fameux carnets de balles avant. Certains étaient dans des rallyes, certains étaient dans, etc. Bon, c'était un peu, voilà, se faire des lieux de... Il y a toujours eu des lieux de rencontre. Maintenant, c'est souvent, peut-être avec les sites de rencontre, on rencontre le même. C'est-à-dire que avec les algorithmes, on vous proposera le style, le même style de personne que vous.
Et ça, est-ce que c'est embêtant?
Le même. Gens, ce qui attire, c'est aussi la différence. Déjà, la différence homme-femme. Et puis, ce qui attire, c'est que l'autre est différent. Il y a des choses qu'on a en commun. Et, et dans le livre, je cite un cas d'un couple qui partait, deux personnes qui allaient en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, il y a, c'est de Paris. Donc, je crois qu'il y a une escale à Dubaï, etc. Je me rappelle de mémoire. Et ils étaient côte à côte. 13 heures. Côte à côte, ou 14 heures ou plus.
Il y a de quoi faire connaissance, quoi, là, déjà.
Et puis, finalement, ils se sont mariés, et voilà, et eurent beaucoup d'enfants, comme dit la tradition, parce que ça aurait jamais été un profil que l'algorithme aurait présenté.
Oui, c'est ça.
C'est un peu le même, c'est-à-dire que avec des algorithmes, et c'est vrai pour beaucoup de choses, on vous propose les mêmes styles de consommation, les mêmes magasins, etc., mais les mêmes styles de conjoints aussi.
Oui, et d'ailleurs, on le voit bien chez les jeunes couples, il y a un socle commun qui est basé sur des points qui peuvent paraître assez accessoires, le sens de la fête, le goût des voyages, les amis, le train de vie aussi. Comment parvenir à une communion des intelligences?
Alors ça, je cite beaucoup parce que je crois que c'est on en parle assez peu. On voit beaucoup l'amour sous l'aspect affectif, émotionnel, et c'était évidemment le cas. Mais la question de la communion des intelligences, c'est-à-dire, est-ce que je sens qu'il y a une curiosité intellectuelle partagée, ou est-ce que je dois expliquer des blagues à l'autre? Par exemple, l'humour, c'est un signe d'intelligence. C'est-à-dire qu'on perçoit un hiatus, on met en lien des choses qui ne doivent pas être ensemble, et c'est ça qui est drôle, justement. Mais si l'autre n'a pas ce second degré, comment je vais faire dans toute une vie à expliquer des blagues à l'autre?
Oui,
et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va se passer quand je vais rencontrer quelqu'un qui direct va piger et va éclater de rire? Il y a une connexion. Et ça, c'est l'intelligence.
D'accord.
Et je pense qu'aussi la question de l'intelligence, de dire voilà, parce qu'on donne pas assez de place à l'intelligence, je trouve, dans les relations amoureuses, alors qu'elle a sa place. Et de dire voilà, est-ce que de même la curiosité intellectuelle, de même parfois avoir l'intelligence, c'est pas diplôme, hein, c'est pas pareil. C'est des manières de fonctionner, de connecter au réel. Il y a des intelligences artistiques, voilà, être avec quelqu'un qui est un artiste, comment est-ce que moi qui suis peut-être plus technique, plus scientifique, comment je vais lier ces formes d'intelligence, comment ça va se... qui fait qu'un rapport réel qui est différent. Donc je crois que c'est toujours intéressant de questionner ce rapport à l'intelligence. Est-ce que je m'ennuie avec l'autre? Je me souviens comme ça d'une jeune femme, c'était son ami qui ne comprenait pas son travail, alors que c'était pas... voilà, elle avait beau lui réexpliquer quel était son travail, qui n'était pas non plus un travail archi spécifique, elle dit mais non, mais je peux pas vivre. Du coup, ils ont arrêté. Mais je me rappelle d'un autre cas où lui, je commence la préparation au mariage, et lui, il fallait que je répète de façon régulière les questions. Et elle était très solaire, très rapide, etc. Et je lui dis, mais vous ne percutez pas du tout de la même manière. Ouais. Est-ce que tu prends conscience qu'elle est bien plus intelligente que toi?
Donc, elle
pleure, lui non, normal. Donc, elle dit, en fait, oui. Mais tous les garçons avec qui j'étais, qui avaient fait des grandes études, etc., ce qui n'était pas son cas, on était en compétition. Alors, il n'y avait pas de compétition, mais me dit, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bienveillant. Et aujourd'hui, son mari est femme et père et mère de famille. Donc, je trouve ça intéressant
donc
de dire que...
Ils
se sont retrouvés sous un autre régime, mais ils ont acté quelque chose qui est quand même pas rien. Parce que j'ai une intelligence artistique et que l'autre trouve que moi, le piano, je suis une pianiste professionnelle, le piano ça l'ennuie, qu'est-ce qui va se passer quand je rencontrerai un ou une pianiste et qu'on va pleurer devant le concerto numéro 2 de Rachmaninov, par exemple, parce que tellement ça nous émeut.
Vous voyez, donc,
ça, c'est des intelligences qui se rencontrent avec la sensibilité. Et je crois que c'est... Je trouve ça intéressant d'être attentif à ça, en tout cas, de souligner.
Père Marie Castagnos, est-ce qu'il il peut être prudent de vérifier une certaine compatibilité des caractères?
Ah, c'est très important. Pour moi, ça me paraît... C'est la question... J'ai accompagné un couple, ils ont décidé d'arrêter. Ils arrivaient épuisés de leurs engueulades. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a des colères, quand on a, on claque la porte, etc., on dit des mots qui dépassent la pensée, mais bon, une fois ça va, mais quand vous êtes à 5-6 séances, à 5-6, à la 6e séance, comme à la première, la question de l'incompatibilité des caractères, la question des colères, la question que ça... Voilà, je dis, écoutez, moi en tout cas, moi, je ne continuerai pas cette préparation de mariage.
Et sans forcément entrer dans une colère, il peut y avoir à chaque fois une nécessité d'ajuster. Mais alors, voilà, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est trop?
Ou est-ce que là, c'était un cas particulier, mais elle avait dû le rejoindre, donc elle a quitté son travail, elle a quitté sa région, et en fait, elle avait de la... et lui était resté dans sa région, dans son travail, déjà en partie, il n'y avait pas de pied d'égalité.
Ah oui.
Et ça, c'est revenu très souvent. Pourtant, il faisait tout pour aller dans sa région, aller voir. Mais il y a quelque chose qui ne passait pas. Qui ne passait pas, et je me dis...
Et ça, il faut l'entendre, en fait.
Il faut l'entendre, je veux dire. Et des belles... Attention, on peut être des belles personnes sans forcément faire trop route commune. C'est deux belles personnes.
Oui.
Je ne parle pas de gens psychiatriquement dérangés, etc. C'est des belles personnes, mais simplement, il y a une manière de voir les choses qui il y avait parfois des embrouilletés, des disputes telles qu'à chaque fois, à chaque rencontre, je dis, écoutez-moi, en tout cas, moi, je n'avance plus et je vous conseille de ne pas... Maintenant, vous ferez ce que vous voudrez. Mais voilà, je crois en tout cas, c'est important de s'en rendre compte parce que c'est quand même une vie ensemble. Donc, on a... La compatibilité des caractères. Bon, on peut avoir des agacements, ça, oui, mais qu'à chaque rencontre, il y ait des disputes qui font que c'est un vrai souci pour le couple, il faut regarder ça, il ne faut pas le mettre sur le tapis.
Il faut oser le regarder avec courage. Vous nous avez parlé de l'intelligence, la façon de se connecter avec son intelligence. Il y a aussi les émotions qui tiennent une part importante dans le discernement. On constate d'ailleurs que les couples se font et se défont au gré des émotions, quelle juste place leur attribuer afin qu'elles contribuent à éclairer finalement un choix qui soit libre.
Alors, c'est intéressant de voir de dire qu'au fond, vraiment de revisiter quelle est la part d'expression des émotions que j'ai eue dans ma propre famille, ma famille d'origine. Comment est-ce que c'était poussière sous le tapis, j'avais pas, ou un homme ne doit pas pleurer, ou il fallait le minimum d'expression, ou est-ce qu'au contraire, on se disait je t'aime, ou est-ce que... Donc comment chacun a évolué par rapport aux émotions dans sa famille, parce qu'il y a deux dangers, le trop, le pas assez. Le trop, c'est que l'émotionnel, on voit un peu dans la société,
prenne le dessus
et qu'on agisse que pas, ou alors non, on met poussière sous le tapis et comme le cocotte minute dont on tiendrait le bouchon.
Oui, ça sort à 50 ans.
Exactement, vous avez tout compris. Donc du coup, c'est intéressant. Comment trouver, est-ce qu'on se dit je t'aime dans la famille, est-ce qu'on peut montrer sa vulnérabilité, est-ce qu'on peut être, et je pense que cette question des émotions, elle est intéressante parce que ça permet de voir aussi de revisiter sa propre éducation à travers ce prisme-là des émotions, comment ça se vivait en famille et aussi peut-être ses propres traumatismes, s'il y a eu des séparations des parents, s'il y a eu la maltraitance, s'il y a eu des choses qui ont été des traumas qui ont blessé l'aspect affectif de ma personnalité, évidemment on ne peut pas ne pas l'aborder dans la préparation mariage. Ce qui est difficile souvent dans les préparations mariage, je trouve, c'est que les paroisses font leur maximum, j'entends ça, mais c'est souvent en groupe. Donc vous pouvez pas, si vous avez eu par exemple des questions d'abus, d'inceste, de maltraitance, de ceci, de trauma, etc., de passage par une hospitalisation psychiatrique, à quel moment vous pouvez le dire? Et je trouve que moi je suis de plus en plus c'est aussi ma vocation, à passer du prêt-à-porter au sur-mesure.
C'est vraiment
de rentrer dans le détail du couple. Et de voir et de pas mettre, parce que le couple n'ira pas voir un conseiller conjugal à cette étape-là de sa formation, en tout cas au moment de la préparation au mariage. Et voilà, donc je trouve ça intéressant, cette compatibilité de caractère, ces émotions, qu'est-ce que ça dit peut-être de traumatisme, de blessure, à quoi est-ce qu'on reconnaît une blessure, c'est qu'on surréagit.
Ah oui, c'est ça.
Si vous surréagissez...
La peur, la colère.
La peur, c'est ça. Les blessures, on surréagit. Il y a une surréaction, ce fait que je monte dans les tours.
Oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? derrière, de, qu'est-ce que ça veut dire comme blessure? Donc de revisiter aussi le rapport à sa famille d'origine.
Et une des blessures aussi peut être un échec amoureux avant la relation. Comment surmonter ce frein? Et ça peut être évidemment une des raisons de ne pas s'engager ou de ne pas arriver à
s'engager. Certainement, c'est les échecs amoureux et de dire, voilà, on a peut-être certains ont connu plusieurs échecs amoureux et dit c'est fini, moi je ne m'engagerai plus, je resterai, voilà, ne réouvre pas. On guérit des mauvaises expériences en faisant des bonnes expériences. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on guérit. Voilà, on guérit des mauvaises expériences en faisant des bonnes expériences. Voilà, c'est de réouvrir le cœur, forcément c'est un risque, aimer c'est un risque. Parce que, et n'oublions pas que le sacrement de mariage, c'est le seul sacrement qu'on reçoit à deux.
Oui, c'est vrai.
Tous les autres, on le reçoit seul. Et d'où il y a des libertés, deux libertés qui s'engagent. Donc, c'est ça qui est complexe dans le sacrement de mariage. Donc, je trouve ça intéressant de dire comment est-ce que moi-même, je vais pouvoir avancer dans ma vie et me reconnecter à l'autre et d'une certaine manière, travailler dans cette direction, quoi.
Mmh, oui. Et c'est vrai que, finalement, il n'y a aucun critère tout seul qui suffit.
C'est ça.
Il y a vraiment un faisceau d'indices.
Il y a un faisceau d'indices, exactement. Mmh. J'aborde dans le livre, la SUSL, c'est un faisceau d'indices. Il ne faut pas absolutiser. Je me suis formé comme thérapeute de couple, je me suis formé à un certain nombre de choses, etc., les communications non-violence, l'énéagramme, etc. C'est pareil, on n'absolutise pas une manière de connaître l'humain. De même, on n'absolutise pas un critère. Et donc, il y a un faisceau d'indices qui fait que, progressivement, il y a une certaine facilité à faire les choses, il y a une certaine spontanéité, voilà, et qui fait que qui est un bon signal. Mais quand tout devient, je parlais du rapport à la colère, le rapport aux disputes, quand tout devient difficile, quand il faut écraser une partie de sa personnalité pour plaire à l'autre, etc., comment ça va durer dans le temps?
Oui, c'est ça.
Comment ça va durer?
On ne peut pas renoncer à ce qu'on est.
Renoncer à ce qu'on est. Et attention à cette pensée magique de dire ça ira mieux avec le mariage.
Oui. Alors ça, c'est
ça, je pense que ça, c'est, ça c'est non, ça c'est no go, ça, parce que ça c'est quelque chose qui n'aboutira pas, ça c'est une illusion, quoi.
Une dernière question avant de marquer une pause musicale, je voulais vous demander, Père Pierre-Marie Castaignos, finalement, j'ai oublié ma question, donc là on fera une petite coupure. Hein, attendez, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que je voulais vous demander sur ce que vous avez dit? Oui, une dernière question, Père Pierre-Marie Castaignos, avant que nous marquions une pause, c'est quand on croit en Dieu, quand on a une vie spirituelle, comment est-ce que Dieu envoie des signes pour le discernement?
Alors, je crois en des signes. D'abord que le Christ est le signe, signe de l'envoi de l'amour du Père. Et puis, il y a des signes qui nous sont donnés. Signes, vous entendez sacrements. Sacrements, ce qu'on appelle signes visibles d'une grâce invisible. Donc, il y a des signes qui sont donnés. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes rencontré à Lourdes que c'est un signe, parce qu'il y a quand même des millions de personnes qui passent à Lourdes. C'est pas parce que vous avez participé à la même retraite, etc., etc. Le signe, moi, je crois qu'il y a des signes, mais le signe, il doit être validé. Il doit être validé par une personne qui est née dans la foi, hein, et qui est née aussi dans la vie conjugale, qui va vous aider à dire oui, c'est un des éléments.
Oui.
Ou attention, parce que je peux voir des signes là où il n'y en a pas.
Oui, voilà, c'est
pour
ça aussi.
Pour le mariage, comme beaucoup de choses, je vois des signes parce que ça m'arrange. Je rationalise. Hein, je vois beaucoup de signes pour ne pas tout mettre sur ma déclaration d'impôt, par exemple. Donc, du coup, bon. Je crois que c'est intéressant. Le signe, il y a des signes. Le Seigneur envoie des signes. Mais c'est, là aussi, n'absolutisons pas un critère par rapport à l'autre.
Oui, c'est ça. Père Pierre-Marie Castaignos, je vous propose de marquer une pause et vous nous donnerez juste après des critères objectifs et des critères subjectifs qui permettent de discerner avant le mariage. Nous écoutons La Voix du Bien-Aimé, interprétée par les Dei Amoris Cantores.
Ami, j'ai cherché celui que mon cœur a choisi. Je l'ai saisi et ne l'ai pas lâché. Je sais que mon bonheur s'est mis dans les lieux escarpés, toujours du regard et me suit. Il est pour moi une branche d'aimer, des vignes d'aimer. Le voici.
Église, Isabelle Duché.
Discerner pour s'engager dans le mariage, c'est le sujet de Vivante Église aujourd'hui. Nous sommes avec le père Pierre-Marie Castaños de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Il existe deux grandes familles de critères de discernement en vue du mariage, les critères subjectifs que seuls on peut appréhender, et puis les critères objectifs qui sont visibles par d'autres. On va commencer par ces critères subjectifs. L'un d'eux, c'est le désir. Il est important de savoir écouter son désir, de distinguer ce qui rend heureux, ce que l'on désire de bon, de beau et de vrai pour son couple. C'est en quelque sorte arriver à une certitude intérieure. Et j'aimerais bien que vous nous parliez justement de cette certitude, parce que ce n'est pas forcément évident, surtout quand on n'a pas confiance en soi.
Oui, alors, la question du désir, c'est, qui dit désir dit se projeter. C'est-à-dire que et qui dit désir dit joie aussi. Quand au début de la vie de couple, bon, peut-être après certaines années, la vie de couple, c'est moins au rendez-vous, différemment au rendez-vous, mais au début de la vie de couple, le fait d'envisager une vie commune avec cette, ça me donne de la joie. On parlait des émotions tout à l'heure. La joie fait partie de ces émotions. Et je pense que c'est, déjà, je me projette, donc le désir, et puis cette certitude intérieure. Là aussi, on n'est pas fait pareil les uns et les autres. Des personnes qui sont peut-être trop sur l'aspect émotionnel, trop dans la question des émotions et pas assez dans la question de la raison, ou qui n'ont pas beaucoup confiance. C'est des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles, etc. Du coup, moi, à ces personnes-là, ou même entre un pain au chocolat et un pain au raisin, c'est un quart d'heure de discernement. Donc, du coup, forcément, le mariage qui est anxiogène. Donc, voilà. Donc, de dire, tiens, ce sera plus compliqué. Du coup, c'est quand on a une. Ou des personnes cyclotimiques, des ascenseurs émotionnels, etc., des montagnes russes émotionnelles. Etc. Donc, ces personnes-là, je leur conseille de valoriser la partie plus objective. C'est-à-dire, comme vous disiez, le critère objectif, c'est des critères qui peuvent être constatés par d'autres. Si le désir est un critère subjectif, la durée du désir, le fait de durer dans le désir est quelque chose qui me rend. Voilà. Donc cette certitude intérieure. Si on a une sorte d'évidence, on sent qu'on est vraiment sécurisé,
en paix,
on est sécurisé dans cette. C'est une relation sécure. Et je pense que ça, c'est important. Je suis dans une relation sécure. Je sens que c'est quelque chose où je peux me montrer fragile aussi. Je peux montrer à l'autre, je ne suis pas la Superman, le Superwoman, etc., que tu penses que je suis. J'ai aussi mes actes manqués, j'ai aussi mes fragilités, etc., mes loupés dans ma vie.
Ne pas nier ce qu'on est.
Voilà.
Voilà, oser être soi-même. Il y a aussi la part de l'imagination, quand même, qui peut être trompeuse, hein, parfois.
L'imagination, c'est ça. L'imagination, c'est Saint-François de Sales qui appelle la folle du logis, c'est ça. La folle du logis, c'est l'imagination qui fait que. On imagine des choses sur l'autre et c'est pas la réalité. Et je trouve que c'est bien de revenir au réel, mais on n'a pas tous le même contact avec la réalité. On n'a pas tous le réel. Je crois que je dois parler dans le livre de quelque chose qui est un peu plus technique. C'est ce que Aristote appelle la cogitative, c'est-à-dire qu'est-ce qui convient de faire à tel moment par rapport à tel autre. Qu'est-ce qui est impertinent de faire. Par exemple, si on est ensemble dans le studio, ce qui est pertinent, c'est que vous regardez, mais vous regarderiez par la fenêtre et me tourneriez le dos. Bon, ça n'a rien contre la foi et les mœurs, mais c'est pas intuitif. Et du coup, le contact avec le réel, c'est ça. Qu'est-ce qui convient de faire? Est-ce que j'ai la même intuition de ce qui est pertinent de faire à tel moment? Ou est-ce que parfois j'ai pas du tout compris l'autre, sa manière d'agir? Et donc de se dire, ça évidemment, ça demande à être investigué.
Oui, bien sûr. On en a un petit peu parlé en première partie, mais c'est vrai que le discernement nécessite un certain courage et c'est parfois oser donner sa liberté à l'autre et ne pas l'enfermer dans la relation.
Certainement. Je crois que accepter de dire qu'il y a des ruptures qui vont être
douloureuses,
douloureuses. Mais un mot, c'est chirurgical. Je veux dire, on redonne à l'autre sa liberté, on remercie l'autre. Et ce n'est pas parce que l'autre est une belle personne que je suis amené à faire route commune avec lui ou avec elle. J'ai l'exemple d'un cas d'un couple qui s'était connu dans l'école de charité mission de l'Emmanuel, etc. Elle, australienne, lui, français. Voilà, donc des très belles personnes. Mais c'était tellement complexe leur relation, et du mal à parler français, du coup, c'est lui qui servait comme un entonnoir
d'interprète
pour prendre le rendez-vous chez le médecin, etc., etc. Les deux, et à un moment donné, ils me disent « We are not free inside ». parce que c'était en anglais en plus.
Facile.
I improve my English. Donc du coup, we are not free inside. On n'est pas libre à l'intérieur.
Ouais, c'est ça.
Mais des très, il aurait été deux Australiens, deux Français, ils seraient mariés et femmes.
Ah oui, c'est
mais des, c'est pas parce que l'autre est une belle personne, ce qui m'a séduit, que je dois faire comme route commune. Mm-hmm.
Et en fait, un manque de liberté, tôt ou tard, on le paye. C'est ce que vous dites dans une conférence.
La question de combien attendre, combien de temps attendre. Parce que, et tout dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez 35 ans, 45 ans ou 25 ans, le timing n'est pas le même. En tout cas, par rapport à ceux qui ont du mal à ça, la question de la deadline, voilà, de la date butoir, ceux qui ont du mal à... Prenez conscience que vous avez une responsabilité sur la vie de l'autre. Vous, le temps que vous prenez ou dans lequel vous ne vous engagez pas, c'est autant de temps que l'autre n'aura pas pour éventuellement développer une autre histoire. Mmh. Et je crois que d'avoir cette sensibilité-là, et c'est pour ça, par exemple, je ne crois pas du tout aux pauses. Dans les relations à cette étape-là.
Parce que ça ne donne pas une liberté entière.
Mais non, la pause, ça ne donne pas. J'appelle ça, je propose que autre chose, c'est l'Isaac du cœur. L'Isaac du cœur, c'est-à-dire que Abraham, qui offre son fils Isaac en sacrifice, etc. Je vais au désert, c'est un exercice spirituel, je vais au désert, plus de son, plus d'images pendant un mois ou deux mois. Je me fais accompagner, j'intensifie ma vie de prière, etc. Et je redonne au Seigneur cette relation, comme Abraham a donné son fils Isaac, voilà, et je vois comment est-ce que ça m'est retourné. C'est ce que, différemment, mais Ignace de Loyola appelle la sainte indifférence. Je suis dans une sainte indifférence. Voilà, j'offre ça, et est-ce que ça m'est redonné, ou est-ce qu'au fond, deux mois sans l'autre, ça s'est très bien passé. Et voilà, donc pas de pause, mais un temps proactif, et à la fin, il y a une décision.
Oui, voilà, c'est ça, on ne laisse pas traîner.
On ne laisse pas traîner parce qu'on fait perdre du temps à l'autre.
Oui,
et
voilà,
je crois qu'il faut être assez attentif à ça.
Un autre critère subjectif, c'est vrai qu'il y a cet engagement qui peut être vertigineux parce que c'est s'engager pour toute la vie, vous le disiez au début de cette émission. Comment rassurer les couples qui hésitent à prendre une décision face à cette disproportion finalement?
Voilà. Toute la vie chrétienne est disproportionnée. Je veux dire, nous sommes la religion du vertige parce que c'est vraiment ça. Tout est vertigineux. Un peu de pain, un peu de vin et c'est le royaume de Dieu qui est sur l'autel. Un peu d'eau sur le front d'un enfant, quelques paroles entre un homme et une femme, et c'est le ciel qui s'ouvre, je veux dire. Mmh. Donc, tout est disproportionné, c'est intéressant. Toute notre vie chrétienne, elle est vertigineuse. Maintenant, de dire que le fait que ce soit vertigineux ne veut pas dire qu'il n'y a pas justement une certaine rationalité qui fait que vous allez pouvoir découvrir dans ce côté pour toujours, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Et je crois que découvrir peut-être une autre manière de compter. Je me rappelle quand je suis rentré dans ma communauté, la première nuit, boule au ventre, je ne vais pas rester ici toute ma vie. Mais toute ma vie n'existe pas. Et de fait, je ne suis pas resté toute ma vie à l'abbaye d'Ourscan, dans l'Oise, etc. J'ai été fondé la congrégation en Argentine, j'ai fait d'autres choses, etc. Bon, mais je crois qu'il y a une sorte de piège, une sorte de condensation du temps. On voit toute la vie. Non. Aujourd'hui, hier n'existe plus, demain n'existe pas. Pour aimer,
je n'ai rien qu'aujourd'hui.
Et je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et d'aujourd'hui en aujourd'hui, vous faites mémoire et vous regardez en arrière et vous dites déjà 5 ans, déjà 10 ans, déjà. C'est ça. La manière de compter du chrétien, c'est faire mémoire. C'est faire mémoire et non pas j'en prends pour 50 ans, puis avec l'allongement de la durée de la vie, forcément.
C'est plus que 50. D'accord, donc faire mémoire. Maintenant, j'aimerais bien qu'on voit les critères objectifs. Ils sont visibles, nous le disions, hein, parce que visibles et vérifiables par quelqu'un d'autre. Ils permettent de vérifier les aptitudes pour se marier. Quelles sont ces aptitudes?
Alors, les aptitudes, parce que notre communauté a eu la joie d'accueillir un nouveau prêtre qui était ordonné, un frère qui était ordonné prêtre dimanche dernier, donc c'est tout récent. Et l'évêque pose la question, a-t-il les aptitudes requises? Et je me suis dit, c'est quoi pour les couples? Il y a aussi des aptitudes requises, on ne pose pas la question. Vraiment, l'aptitude à la fidélité. C'est-à-dire que si à l'étape, en amont du mariage, il y a déjà des coups de canif dans le contrat, c'est no go. Ça pour moi, parce que là,
c'est non négociable.
Je pense, c'est un manque de respect. Parce que c'est qu'il y a un manque de respect. Comment bâtir sur le manque de respect? Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'aptitude à la vie commune. Donc on a parlé de la compatibilité des caractères, qui est une certaine fluidité. On ne demande pas une perfection, hein, on peut se prendre la tête, mais ensuite voilà, il y a une aptitude, l'aptitude aussi à avoir une joie de se projeter dans les enfants. Si dès que vous voyez un nourrisson, vous êtes pris de haut le cœur, etc., c'est peut-être pas la vie matrimoniale et familiale qui sera votre tasse de thé. Je veux dire, voilà, ces aptitudes-là de vivre paisiblement la fidélité, de vivre paisiblement autant que faire se peut la relation et la vie familiale, qui je trouve ça fait partie des aptitudes qui sont à vérifier. Il y a des personnes qui sont pas faites pour vivre avec d'autres, qui sont pas faites pour une vie commune. C'est parce que c'est trop dans leur tête, c'est trop compliqué. Et donc on voit bien qu'elles n'arrivent pas à rentrer en relation vraiment avec l'autre, etc. Ben, il faut prendre acte que ben voilà, ma vocation est autre.
On voit quand même beaucoup de baptisés non pratiquants qui souhaitent se marier religieusement. Comment le Seigneur peut-il les éclairer alors qu'ils n'ont pas forcément une vie spirituelle, une vie
alors,
prière?
C'est intéressant de déjà prendre conscience que déjà c'est une grâce que ces couples-là frappent à la porte de l'Église.
C'est vrai.
Ou que aussi autre cas, il y en ait un qui soit plus impliqué que l'autre. Et moi, mon conseil, c'est celui qui est moins impliqué est gardien de la foi de l'autre. Celui qui est moins impliqué est gardien de la foi de l'autre. C'est-à-dire, et je pense à un couple en particulier où elle, traditionnellement catholique, les JMJ, le scoutisme, etc.
Engagé, lui,
à peine baptisé, une famille où il y a absence complète de vie spirituelle, même pas la messe de Noël, rien du tout, même culturellement, etc. Donc, et je lui ai dit, est-ce que déjà tu es d'accord avec ce que propose l'Église, donc les piliers du mariage, je rappelle-toi que tu seras gardien de la foi de ton épouse, c'est-à-dire que tu rendras possible, si dans ta famille on n'allait pas à la messe de Noël, quand vous serez mari et femme, vous aurez une fois sur deux dans ta famille, tu chercheras un horaire, tu chercheras concrètement une messe, une paroisse où elle puisse aller passer Noël et célébrer Noël avec la communauté des croyants. Donc, je trouve ça intéressant de dire que cette différence, et souvent c'est différence qui fait que au niveau spirituel, on va se mettre en route, mais parfois c'est celui qui est le plus éloigné qui fait beaucoup de chemin aussi. Et je trouve ça c'est très beau de dire maintenant ça dire maintenant aussi, si l'autre n'est pas du... Il peut être baptisé, il peut être catéchisé, etc. Il va avoir tous les tampons, etc. Mais s'il n'est pas du tout sensible à la chose spirituelle...
Oui, s'il est indifférent.
Il y aura une certaine solitude. Dans le discernement, celui qui est plus engagé dans sa vie spirituelle et plus dans la vie de foi, et celui qui l'est moins, celui qui est plus engagé se sentira seul. Il y a une part de solitude.
Donc ça, il faut l'accepter.
Il faudra l'accepter, ça fait partie du... Est-ce que je suis capable de vivre avec cette solitude et que l'autre, non pas, fasse pas obstacle, parce qu'on demande de ne pas faire obstacle, mais... Ça ne lui parle pas. Et c'est une personne de bonne volonté, mais ça ne lui parle pas du tout.
Et pour l'éducation des enfants, c'est pareil, parce que la personne se trouvera seule.
La personne se trouvera seule, mais dans l'éducation des enfants, il faut être tout de suite d'accord. C'est baptême et catéchisme. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est OK? Parce que ça, surtout, alors j'ai accompagné des couples où il y avait des religions différentes, par exemple. Donc ça, ou religions différentes, ou un baptisé, l'autre pas. Donc, mais ça, c'est un marqueur. Est-ce que c'est clair pour vous que c'est par le mariage, vous dites oui à l'accueil de la vie, vous dites oui à baptiser, à catéchiser les enfants? Est-ce que c'est... Et ça, faut... Et la partie qui n'est pas baptisée doit l'écrire de façon noir sur blanc. Même si elle ne s'en charge pas, mais je ne ferai pas obstacle. Et ça, je pense que ça, c'est très important. Hein. Et encore une fois, je serai gardien de la foi de mon conjoint qui lui est plus impliqué.
Un dernier mot peut-être pour conclure sur ce discernement sur cette peur qu'ont les jeunes de s'engager. Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils se lancent?
Alors déjà, regardez d'où vient cette peur. D'où vient cette peur? C'est une constatation, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs, peut-être leurs propres parents, voire grands-parents. Il y a des couples qui ne sont entourés que de personnes séparées, que ce soit oncle et tante, que ce soit, voire grands-parents, voire, voire parents, etc.
Donc
voire...
pas de modèle de couple
qui
marche, en fait, qui
dure. Mmh. Donc c'est pas facile. Donc on voit bien que ces personnes-là mettent plus de temps, le fait de l'engagement, d'un engagement pour toujours, voilà, c'est le côté vertigineux. Moi, je leur dis, voilà, c'est... mais en même temps, des couples comme... J'ai rencontré des couples comme ça qui disent, moi, je ne reproduirai jamais.
Eh oui.
Moi, je veux que mon couple, je veux que mon couple, et je me battrai pour mon couple jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc, et j'en vois aussi des comme ça, qui disent, moi, c'est hors de question, je me sépare, parce que ça, ce que propose l'Église, c'est un bien humain. C'est-à-dire, c'est évident, c'est un bien humain, le fait de, et puis, sans parler du bien pour les enfants, on parle aussi beaucoup d'écologie, etc., mais le coût écologique des divorces, de voitures, deux appartements, les enfants qui sont des balles de ping-pong, entre papa, maman, etc. Tout ça, on n'en parle jamais. Mais le coût écologique, la traçabilité carbone, on parle ça, etc., des séparations, elle est considérable, sans parler du coût affectif, des blessures intérieures que ça cause, etc. Mais du coup, je me dis, il y a des personnes qui, justement, n'ont pas eu de modèle de stabilité, mais sont très clairs que dans leur manière de vivre, c'est ça que je veux vivre. Même si c'est difficile, je vais jamais accrocher, je vais demander de l'aide. La grâce d'être dans l'Église, c'est qu'on n'est jamais seul. On n'est pas seul, on sait. Et la difficulté des couples non-croyants qui n'ont pas du tout... Ils ne savent pas quelle porte frapper. Ils veulent vivre ce que vivent les couples chrétiens, mais ils ne savent pas forcément vers quelle porte frapper. Et donc, du coup, on n'est jamais seul dans l'Église et on peut demander de l'aide. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut songer quand il y a des moments un peu difficiles.
Oui, c'est ça. Ne pas hésiter à demander de l'aide et à frapper à la porte de l'Église. Merci beaucoup, Père Pierre-Marie Castaignos. Vous nous avez donné aujourd'hui des clés pour discerner avant de s'engager dans le mariage. Je rappelle le titre de vos trois ouvrages sur le couple, Est-ce lui, est-ce elle, Se marier et durer et Couple et vie professionnelle, le petit dernier, tous trois édités chez Salvator. Et puis, nous attendons le suivant, Couple et loyauté familiale. À bientôt donc.
À bientôt.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.